Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 17 juillet 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi refuse d'entériner le choix de Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale. Prière et hommage aux victimes des manifestations à Bamako. Une mission de la CEDEAO se trouve sur place pour faire baisser la tension. En Côte d'Ivoire, inhumation aujourd'hui de l'ancien Premier ministre Amadougon Koulibaly à Korogo, sa ville natale. Manifestation au Soudan contre les réformes adoptées par le gouvernement de transition, mais jugées anti-islamiques. Plus de 3,5 millions de cas de Covid-19 aux États-Unis alors que les États explorent les différentes options pour la rentrée scolaire. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et le sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, Ronsard Malonda ne sera pas investi comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Le président Félix Tshisekedi, à qui revient le dernier mot, a répondu à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui faire part des irrégularités lors de la désignation de celui qui devrait diriger la centrale électorale. Le point avec Eddy Issango.
Le président Félix Tshisekedi relève dans sa lettre de refus que l'Assemblée nationale lui fait valoir l'entérinement de Ronsard Malonda sans l'accompagner des procès verbaux, des désignations et d'autres documents. Le chef de l'État congolais constate aussi que l'information selon laquelle Ronsard Malonda a été désigné à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée par certains membres de cette composante. Les églises catholiques et protestantes ont été plus tard rejointes par d'autres comme les kimbanguistes, les musulmans et certains indépendants pour contester la désignation de Malonda. Toutes refusent d'admettre qu'un vote a eu lieu. Le président Tshisekedi soulève aussi les mouvements de protestation qui ont eu lieu à travers les pays pour s'opposer à cette désignation. Dans son discours à la nation les jours de la fête nationale, M. Tshisekedi avait déjà prévenu qu'il ne laisserait pas passer une décision qui va à l'encontre de la volonté du peuple.
La première ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, a dévoilé son nouveau gouvernement ce vendredi au lendemain de sa nomination. Il n'y a pas de grand changement par rapport à l'équipe précédente. Première femme à être nommée à la tête d'un gouvernement au Gabon, Madame Osuka Raponda est remplacée à la tête du ministère de la Défense par Michael Moussa Adamo, ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Il y a aussi l'entrée de Guy Patrick Obiang, jusqu'ici à la tête du comité de lutte contre le Covid-19, qui devient ministre de la Santé, remplaçant Max Limoukou. Peu visible depuis le début de la pandémie. Au Mali, le mouvement du 5 juin qui réclame le départ du pouvoir en place rend hommage aux victimes des récents troubles. Ce vendredi devait initialement donner lieu à un nouveau rassemblement à risque, mais les organisateurs se sont ravisés mercredi, jour où arrivait une délégation de la communauté des États ouest-africains conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Le M5 a finalement opté pour un appel à prier dans toutes les mosquées du pays à la mémoire des personnes tuées la semaine dernière. Nous y reviendrons en partie magazine. Par ailleurs, toujours concernant le Mali, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU s'inquiète de la prolifération des fake news et des incitations à la violence sur les réseaux sociaux. Selon les Nations Unies, cela risque d'enflammer une situation déjà extrêmement tendue. Les précisions de John Lindon.
Nous avons des informations selon lesquelles les réseaux sociaux ont été partiellement bloqués. C'est inquiétant car il est important que la population ait accès à l'information, a reconnu la porte-parole du Haut Commissariat. Mais dans le même temps, il y a des inquiétudes sur les nombreuses fake news propagées par les réseaux, les messages en ligne qui incitent à la violence, a-t-elle déclaré. Les Nations Unies estiment qu'il y a une prolifération des fausses nouvelles et cela risque d'exacerber les tensions, mais que cela ne justifie pas de fermer l'Internet. La semaine dernière, Bamako a connu 3 jours de manifestations pour exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon le gouvernement, il y a eu 11 morts et 158 blessés. Les leaders de la contestation parlent de 20 personnes tuées par balle. Une mission de la CEDEAO dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Goodluck Jonathan est sur place pour tenter de faire baisser la tension. Le Mali est déjà confronté à des attaques djihadistes récurrentes et des violences intercommunautaires meurtrières, souvent dans le centre du pays.
Manifestation à Khartoum, la capitale soudanaise, contre une série de réformes adoptées récemment par le gouvernement de transition. Des mesures que les manifestants jugent anti-islamiques. Les détails avec Nani Talani.
Le 10 juillet, le gouvernement de transition arrivé au pouvoir après la chute d'Omar el-Béchir a adopté une série d'amendements abolissant la peine de mort pour apostasie, criminalisant l'excision et autorisant les non-musulmans à importer, vendre et consommer de l'alcool pour la première fois depuis 1983. Nous ne remplacerons pas la loi divine, Hamdok, Khartoum n'est pas New York, non aux amendements contraires à la charia, la loi islamique, ont scandé les manifestants dans les rues après la prière collective du vendredi dans l'est et le nord de la ville. Les forces de sécurité ont bloqué les grandes artères de la capitale ainsi que les ponts reliant le centre de Khartoum à sa ville jumelle, Omdurman, de l'autre côté du Nil. La semaine dernière, le ministre de la Justice, Nasreddine Abdelbari, a également annoncé que la conversion à une autre religion que l'islam sera décriminalisée. Le premier ministre Abdallah Hamdok a salué sur Twitter l'adoption de ces amendements comme une étape importante dans la réforme de l'institution judiciaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de COVID-19 continue de progresser dans le monde. Les États-Unis, pays le plus touché, ont enregistré plus de 3,5 millions de cas d'infection et plus de 138 000 morts. Plusieurs villes, dont New York, Los Angeles et Houston, prévoient une rentrée scolaire partielle ou en ligne. Le point avec Nathalie Barge.
New York s'apprête à rouvrir en septembre avec 3 jours de classe maximum par semaine. Les écoles de Houston et de Los Angeles resteront fermées pour 6 semaines jusqu'à nouvel ordre et les cours reprendront en ligne. En Floride, le gouverneur a fait publier un décret pour la réouverture, mais la ville de Miami a décidé de ne pas rouvrir tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle. Cet État a enregistré 14 000 nouveaux cas en 24 heures et 156 morts. Le gouverneur républicain de la Géorgie a porté plainte contre la maire démocrate d'Atlanta pour avoir imposé le port du masque. 300 Géorgiens sont morts de la pandémie et 106 000 ont été contaminés. Le Brésil a enregistré plus de 2 millions de cas et près de 77 000 morts. La Grande-Bretagne va augmenter sa capacité de dépistage visant 500 000 tests par jour. Retour aux restrictions en Israël où les commerces non essentiels et les lieux publics vont fermer le week-end. Et en Iran, le ministère de la Santé a fait état de plus de 269 000 cas et près de 14 000 morts.
Le rétablissement de l'interdiction de la vente d'alcool en Afrique du Sud, décrété par le président Cyril Ramaphosa pour soulager les hôpitaux au plus fort de la pandémie de COVID-19, a été accueilli avec satisfaction par un personnel médical épuisé, mais provoqué la colère des commerçants aux abois. L'Afrique du Sud a recensé plus de 324 000 cas, dont 4 669 décès. Le pic de la pandémie y est attendu dans les prochaines semaines. Et puis au Ghana, plus de 2000 agents de santé ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie. Le nombre total d'agents de santé infectés est de 2065, a déclaré hier Patrick Kouma Aboguier, directeur des services de santé du pays. Ici aux États-Unis, le chef du Pentagone, Mark Esper, a interdit ce vendredi le drapeau des Confédérés sur toutes les bases militaires américaines, où cette bannière, souvent perçue comme un symbole de racisme, est fréquemment déployée dans les chambrées ou les salles communes. Dans un message à tous les responsables de l'armée américaine, le ministre de la Défense a dressé une liste des drapeaux autorisés sur les bases, à bord des navires de guerre, dans les bureaux ou les salles de conférence, et y compris dans tous les espaces loués par le ministère de la Défense à l'extérieur des bases. Le nouveau Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce vendredi qu'il décalait 2 réformes sociales clés, celle des retraites et de l'assurance chômage, en raison de la crise économique et sociale liée au coronavirus. Beaucoup de sujets sont sur la table et je suis heureux de la qualité du dialogue que nous avons établi ce matin avec les partenaires sociaux. C'est féliciter le Premier ministre après s'être entretenu pendant 3 heures avec des représentants des syndicats et du patronat. Cette réforme de la retraite avait provoqué 2 mois de grève dans les services publics et de manifestations pendant l'hiver. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barche.
En Afrique du Sud, le parti d'opposition Alliance démocratique a saisi la justice contre le plan de restructuration de 600 millions de dollars de la compagnie aérienne publique. Cette semaine, les créanciers de South African Airlines ont approuvé le plan qui prévoit le licenciement de 2700 personnes et la création d'une nouvelle société. Les syndicats ont approuvé ce plan qui permet d'éviter la liquidation de la société. Le groupe bancaire panafricain Ecobank a remporté le prix 2020 de la meilleure banque africaine en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Euromonnaie a récompensé la banque pour son impact majeur sur la question sociale et environnementale en Afrique. Ecobank concentre ses opérations dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'inclusion financière. La République démocratique du Congo et la France ont signé plusieurs financements, dont un de 15 millions d'euros pour l'assainissement des communes de Massina et Limete à Kinshasa. Ce projet vise à améliorer le système de gestion des déchets solides et à protéger les habitants contre les inondations. Il prévoit aussi un appui aux centres de santé de ces quartiers pour faire face à la pandémie de Covid-19.
À présent, la page des sports avec Bagasekura.
Bonsoir à tous. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, champion d'Espagne. Zidane et ses hommes ont décroché hier soir le 34e titre de champion d'Espagne de l'histoire du Real, le premier depuis 2017, en battant Villarreal 2-1 pour la 37e journée de Liga. Les Madrilènes se sont imposés grâce à un doublé de l'avant-centre français Karim Benzema. Il compte désormais 7 points d'avance sur le tenant du titre, le FC Barcelone, défait 2-1 par Osasuna, toujours hier soir, mais cette fois-ci au Camp Nou, et qui ne peut plus les rejoindre avant la 38e journée de championnat ce dimanche. Après le revers de Barcelone contre Osasuna, donc, Lionel Messi a tapé du poing sur la table, appelant les siens à, je cite, « changer en profondeur ». Et puis en Premier League en Angleterre, un stade de Wembley vide pour 2 rencontres de gala. Manchester City affrontera Arsenal samedi à 18h45 temps universel. Puis Manchester United et Chelsea se feront face dimanche à 17h en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Le premier de ces 2 duels entre club mancunien et londonien City-Arsenal sonnera les retrouvailles entre Pep Guardiola, coach des Citizens, et son ancien adjoint Mikel Arteta. À présent sur le banc des Gunners, les 2 hommes se sont affrontés 1 fois depuis l'arrivée d'Arteta à Londres pour une victoire 3-0 des Mancuniens le mois dernier. Les récents affrontements entre les 2 clubs sont d'ailleurs nettement à l'avantage des City, vainqueurs des 7 dernières rencontres avec 20 buts marqués et seulement 2 encaissés. Un homme de 27 ans a été mis en examen pour meurtre à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, après avoir avoué avoir tué par balle Christopher Aurier, frère du footballeur ivoirien Serge Aurier de Tottenham. Un crime commis par jalousie amoureuse, c'est ce qu'indique l'avocat de la partie civile. Christopher Aurier, 26 ans, avait succombé lundi à l'aube après son transfert à l'hôpital. Il avait été secouru sur les lieux de la fusillade à la sortie d'une discothèque dans une zone industrielle en périphérie de Toulouse, blessé à l'abdomen. Et pour terminer, les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver Pékin 2022 assurent ce vendredi qu'ils prévoyaient de terminer tous les sites de compétition d'ici à la fin de l'année. Face aux doutes sur la tenue des Jeux, actuellement Pékin 2022 met en œuvre des mesures strictes de prévention et de contrôle vis-à-vis du Covid-19. Tout en allant de l'avant avec les préparatifs des Jeux de manière ordonnée, ont déclaré à l'AFP les organisateurs des JO qui doivent se tenir du 4 au 20 février 2022, soit 6 mois après ceux de Tokyo 2020, reportés à 2021 en raison de la pandémie.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, à la tête d'une délégation de la CEDEAO, est à Bamako depuis mercredi pour tenter de désamorcer la crise politique dans le pays. Le mouvement du 5 juin, qui réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, a annulé sa manifestation prévue ce vendredi pour une journée de prière et de recueillement pour les victimes des violences de la semaine dernière. Reportage à Bamako, Kassim Traoré.
En ce jour d'hommage et de prière pour les victimes, les attractions étaient tournées vers les lieux de culte, surtout la mosquée de l'imam Mahmoud Diko à Badlabougou. Mais la commission sociale et sanitaire du mouvement M5 a fait le tour de certains hôpitaux afin de recenser les blessés. Sidibé Dede Ousmane, présidente de cette commission.
La commission se fera un devoir d'aller dans toutes les structures et même dans les maisons, parce qu'il y a des malades qui sont chez eux à la maison, pour aller leur rendre visite et s'enquérir de leur état de santé. Hier, il y avait 3 en réanimation. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule personne. Donc, nous avons pu voir 21 personnes, 21 malades qui sont dans les structures différentes. On a vu la chirurgie, le traumato, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un total, en tout cas, de 21 personnes. Donc, il y a en tout et pour tout 23 malades. Et, alhamdoulilah, ils sont pris en charge.
De son côté, le Premier ministre a rendu visite aux blessés dans les rangs des forces armées de sécurité et réparti entre les différentes structures sanitaires. Là, on décompte 127 éléments des forces armées qui ont été blessés. Azer Kamate, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Je voudrais d'abord, très respectueusement, avoir une pensée émue pour les personnes qui sont décédées, présenter mes condoléances à l'ensemble des familles endeuillées et prier pour le repos de l'âme des disparus. Beaucoup ont d'ailleurs déjà été libérés. Je pense que dans les tout prochains jours, d'autres libérations auront lieu. Il y a évidemment des cas graves, notamment des cas de blessures par balle enregistrés au niveau des forces de sécurité, qui nécessite naturellement un traitement assez long.
Côté médiation de la CEDEAO, les échanges se poursuivent avec la classe politique. Boukari Treta, président de la majorité présidentielle.
Nous devrions ensemble trouver des ressorts nécessaires pour nous asseoir et parler du Mali, mettre le Mali au-dessus de tout. Donc nous avons réitéré cet appel-là. Nous avons évoqué l'ensemble des questions qui divisent soit à cause des incompréhensions, à cause des interprétations, à cause aussi vraiment donc de certains faits. Ils ont entendu le M5, ils ont fait une somme d'offres et nous ont entendu. Ils ont posé des questions sur lesquelles nous sommes expliqués et nous avons le sentiment que nous avons été compris. Conformément à leur programme, nous aurons un rendez-vous demain, Inch'Allah, où certainement on nous mettra face à face avec le M5. On va discuter.
Les observateurs nationaux des scrutins de mars et avril ont aussi été reçus par la délégation de la CEDEAO. Docteur Ibrahima Sango, président de la POSSIM.
Pour nous, la sortie de crise actuellement en République du Mali nécessite qu'on sorte de la constitution. On ne peut pas gérer le problème entièrement par les dispositions légales, par le droit ou bien par la légalité. Il faut qu'il y ait un consensus autour des préoccupations. Et là, les 3 préoccupations que la mission de la CEDEAO a soulevées, il s'agit premièrement d'un gouvernement d'union nationale qui va s'atteler à œuvrer pour des réformes institutionnelles et des réformes électorales pour que plus jamais au Mali il y ait des crises de ce genre.
La proposition de sortie de crise faite par la CEDEAO n'enchante pas le M5-RFP, qui exige toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, propose une transition et l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante et la libération de Soumaïla Cissé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, Amadougou Koulibaly a été inhumé ce vendredi dans son Korogo natal après une série d'hommages dans le pays. Le premier ministre ivoirien est décédé le 8 juillet dernier à Abidjan à l'âge de 61 ans. Reportage Aïcha Diarra à Korogo.
Il a quitté la terre d'Abidjan pour celle de ses ancêtres le mercredi dernier. Korogo l'a reçu à bras ouverts pour lui dire « c'est ici ta place ». Les donations ont continué dans la grande famille du défunt. Les jeux d'alliance aussi pour respecter la tradition. Venu avec un jeune bouc et quelques légumes frais, Irielu Jeanne de l'ethnie Gouro vient renouer le jeu des alliances.
Ce matin, comme on doit faire l'enterrement, nous sommes venus bloquer le corps parce qu'on doit envoyer le corps à Jenda. Nous, on a déjà fait le caveau de monsieur Amadou Gonkroubali. Donc, nous sommes là ce matin avec nos dons. Le plus gros des bœufs que nous avons envoyé au funérailles. Et puis, on a envoyé une tonne d'aubergines, une tonne de tomates, piments.
Un tour à la résidence de l'ex-premier ministre, ses proches collaborateurs sont là. Touré Ibrahim Mokhtar était son directeur de cabinet adjoint.
Je n'ai pas de force, c'est la douleur. Parce que c'est un frère. C'est un sentiment de fraternité que je ressens. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus mes membres. Vous voyez, je vous parle franchement, regardez-moi dans les yeux. Vous voyez que c'est quelqu'un de très cher qui parle pour moi. Et c'est un peu comme si moi-même, je m'en étais allé à moitié.
À la mosquée pour la prière mortuaire, les délégations sont venues de partout. Madame Sialou vient de Boaké avec une forte délégation.
La douleur, on ne peut même pas supporter. De Boaké jusqu'à aujourd'hui, dans le cas, on a pleuré, on a prié pour lui, que son âme se repose en paix.
Amadou Gonkroubali a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Décédé le 8 mars à Abidjan, peu après son retour de France, où il avait reçu pendant plusieurs semaines des soins pour des problèmes cardiaques. Aïcha Diarra, de retour de Korogo pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Présidentielle américaine 2020, la pandémie de coronavirus entravant les rassemblements. La campagne de Donald Trump est passée à l'offensive avec des dépenses publicitaires massives. Le chef de l'exécutif américain utilise également les événements de la Maison-Blanche comme des opportunités pour délivrer son message aux électeurs. Son rival démocrate Joe Biden s'en tient à une approche minimaliste, limitant ses voyages et les conférences de presse. Patsy Widakausura, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, examine les différentes stratégies de campagne. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Le programme de la gauche radicale, prendre le contrôle de nos villes, supprimer les fonds pour la police, faire pression sur d'autres villes, et Joe Biden se tient à leur côté. C'est une annonce de campagne du président Donald Trump, un candidat à l'offensive avec un message attaquant son adversaire. Les rassemblements électoraux sont reportés à cause de la pandémie. Donald Trump s'appuie sur des annonces et des événements présidentiels pour faire pression sur son adversaire, le candidat démocrate présumé Joe Biden, qui est en tête des sondages. Ce fut le cas lors de l'annonce mardi à la Maison-Blanche de la politique chinoise.
Biden s'est rangé à maintes reprises avec la Chine contre l'Amérique.
Pareil mercredi, lors d'un autre événement sur les infrastructures à Atlanta.
Biden est heureux d'enlisser les projets dans des tracasseries administratives. Nous voulons faire construire les choses.
Comme Trump, les anciens locataires de la Maison-Blanche ont utilisé ce qu'on appelle la stratégie de la roseraie, du nom du jardin de roses de la Maison-Blanche où le président prononce certains discours. Cette stratégie consiste à prendre pour prétexte les événements médiatiques de la Maison-Blanche pour souligner les réalisations d'une année électorale. Norman Ornstein est chercheur à l'American Enterprise Institute.
Mais si vous utilisez un événement comme celui-ci, ou une conférence de presse censée être une annonce officielle sur Hong Kong, et au lieu de cela, vous prenez 90% du temps pour attaquer votre adversaire politique, ce n'est pas la façon dont les choses étaient faites par les présidents précédents.
Joe Biden, de son côté, adopte une approche plutôt minimaliste en faisant le moins et dans l'espoir de recorter le plus. Il limite ses voyages de campagne, les conférences de presse et campe dans sa maison de l'État du Delaware.
Thomas Schwartz enseigne les sciences politiques à l'université Vanderbilt.
En fait, limiter l'exposition de Biden tout en laissant Trump sous les feux de la rampe a été très efficace parce que Trump ne cible pas toujours son message. Il a souvent trébuché sur des erreurs et tenu des propos pouvant être très efficacement utilisés contre lui.
Le dernier sondage de l'université Quinnipiac donne à Biden une large avance avec 52% d'opinions favorables contre 37% pour Trump. Dans d'autres sondages, les écarts sont plus serrés. La campagne Biden dépense beaucoup moins en publicité que Trump, se limitant à des messages plus sobres.
Je vous le promets, je ne ferai pas dans la peur et la division.
Les annonces publicitaires de l'ancien vice-président mettent en avant la nécessité d'unir le pays en ces temps de crise.
Je ne vous abandonnerai pas. Nous sommes tous dans le même bateau.
Comme pour suggérer que Trump ne le fait pas.
I'm Joe Biden and I approve this message.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, Lionel Gaïmartin et Georges Léonard Sayo. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
À la mi-juillet 1995, des Serbes bosniaques ont envahi une zone sécurisée de l'ONU en Bosnie-Herzégovine et commis le pire crime en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le massacre de plus de 8000 hommes et garçons bosniaques musulmans. Nous marquons ce mois-ci le 25e anniversaire du génocide de Srebrenica. Après la dislocalisation de la Yougoslavie au début des années 1990, l'ethno-nationalisme a attisé les tensions et les animosités entre la myriade des groupes ethniques qui composaient le pays, avec comme point culminant les guerres yougoslaves, d'abord en Croatie et en Slovénie, puis en Bosnie-Herzégovine multiethnique. Au début de la guerre, l'est de la Bosnie-Herzégovine était peuplé des Bosniaques, groupe ethnique majoritairement musulman de Bosnie. Pendant plus de 3 ans, des nationalistes serbes bosniaques ont terrorisé cette population bosniaque. Des milliers de personnes ont été massacrées, des maisons et moyens de subsistance détruits. Le 11 juillet 1995, des unités de l'armée serbe bosniaque de la République Srpska, sous le commandement du général Ratko Mladic, ont investi l'enclave de la Srebrenica, qui avait été déclarée zone sécurisée et placée sous la protection des Nations Unies 2 ans plus tôt. La ville grouillée des dizaines de milliers de déplacés des villages environnants qui s'y étaient réfugiés. Les troupes serbes ont regroupé la population, séparant les hommes des femmes et des jeunes enfants, puis ont systématiquement massacré les mâles de plus de 15 ans. Entre le 11 et le 25 juillet, ils ont tué quelque 8372 hommes et garçons sans armes, tout simplement parce qu'ils étaient bosniaques. La Convention de l'ONU de 1948 sur les génocides le définit comme un ensemble d'actes commis avec l'intention de détruire entièrement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et c'est ce qui a eu lieu à Srebrenica selon un rapport publié en 2004 par la commission d'enquête sur les événements survenus dans la Srebrenica et aux alentours. Les deux principaux responsables du massacre de Srebrenica sont l'ancien président serbe bosniaque Radovan Karadzic et son chef militaire Ratko Mladic. Tous les deux ont été capturés et traduits devant le tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie et qui les a jugés coupables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. 25 ans après les atrocités de Srebrenica, nous présentons nos profondes condoléances aux familles des victimes de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Il est temps de réfléchir sur la terrible tragédie de Srebrenica et de s'engager à nouveau à demander des comptes aux auteurs de crimes contre l'humanité partout dans le monde. Le 25e anniversaire du génocide de Srebrenica nous rappelle aussi l'importance de la paix en Bosnie-Herzégovine et offre à ses dirigeants une nouvelle opportunité de prendre les mesures nécessaires en vue d'édifier une confiance durable, le respect mutuel et la réconciliation. Et cela est essentiel pour assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise plus et que la Bosnie-Herzégovine s'oriente vers un avenir plus stable et plus prospère au bénéfice de tous ses citoyens.
C'était un éditorial reflétant le point de vue.